mystérieuse épidémie.
Mais l'infection se répandant et le chaos se généralisant, il ne suffisait plus d'avoir de bonnes jambes.
Allez, chacun rentre chez soi.
À partir de maintenant, c'est simple. Ça va être chacun chez soi.
Bonsoir à toi. Je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens, ou si ça t'arrange, dans la plus proche dimension parallèle.
La vie est une jungle, tu sais.
Oh, on est bien chez soi, quand même.
C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
La routine habituelle, quoi.
C'est monotone. Je m'ennuie.
Qu'est-ce qu'il y a, ça vous plaît pas?
Si, mais c'est tellement triste.
Triste? Pourquoi triste?
Ça me fait penser à ceux qui sont loin de chez eux.
Mais qui est loin de chez eux?
Je sais pas, tous ces gens qui sont obligés de quitter leur terre et qui se lancent à corps perdu sur les routes pour fuir l'oppression.
Eh ben, il se trouve que moi aussi, je suis malade.
Toi, malade? Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi.
La seule maladie que t'as jamais eue, c'était des poux.
Alors, vous croyez, madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? À peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre.
Je prendrai soin de toi si tu es malade.
Nous sommes le vendredi 27 mars à la coopérative Le Champ Commun. L'épicerie est ouverte ce matin et de nombreux passants viennent faire leurs courses. En ce jour bien ensoleillé, personne ne porte de masque ni de gants parmi les clients. L'équipe, elle, est sur le pied de guerre. La livraison a eu du retard ce matin. Le masque est vissé sur le nez, bien en place.
Au quotidien, je suis seule, alors vous savez, mais bon, ben, je viens faire mes courses ici, je suis pas très loin de là, et vous voyez, ça fait du bien, au moins ça fait sortir. Et puis on a de la chance encore d'avoir deux commerces, la boulangerie et le Champ Commun. Comme ça, on fait nos courses, j'ai pas besoin d'aller dans les grandes surfaces. J'habite en dessus, par là, je fais mon tour par là, je retourne par là-bas, ça me fait mon petit circuit.
Et au niveau local, est-ce que vous trouvez qu'il y a une solidarité qui est assez présente?
Très. Quand on a de la famille encore, quand on a un bon voisinage, ça passe. Oui, on se reconsole les uns les autres, c'est pas vrai?
Bonjour madame.
Bonjour, oui.
Ça va?
Oui, ça va.
Le moral va, c'est
ben, faut
en
bien.
Cette période, hein,
c'est vrai. Oui, en cette période, oui, avec ce que je passe en plus et tout ça.
Oui.
Eh oui, voilà, mais vous savez, on n'est pas des seuls.
Non.
Faut se dire que... Hein, il y a encore plus malheureux que nous, hein, et plus confinés. Parce que moi, je vois, j'ai quand même une petite pelouse et tout ça, et c'est important. Ça.
Bah, Arnaud, voilà, je suis avec ma femme et on est papa de 4 enfants et on habite en campagne, juste à la frontière entre Augan et Carreau. Et on est aussi sur Carreau et puis bah on est à la maison. Voilà, on est tous les 6 à la maison et puis voilà, on fait.
Votre activité professionnelle?
Je suis un infirmier de bloc opératoire et je travaille pour un laboratoire et j'interviens dans les blocs opératoires pour tout ce qui est pose de prothèses de mon laboratoire. Donc à l'heure actuelle, les blocs étant fermés, sauf urgence, donc voilà, hormis hier où j'ai travaillé, mais sinon, voilà.
On s'attend à quoi sur Pluermel, à votre avis?
Je sais qu'il y a 10 jours, la salle de réveil était transformée en salle de réa, mais à part ça, pas plus d'infos que ce qu'il y a dans le journal.
Et à la maison, alors, ça se passe comment, en quelques mots?
Eh ben, ça se passe qu'on fait comme on peut, quoi. Voilà, étant en campagne, le réseau Internet est loin d'être opérationnel, donc télétravail, et puis télétravail pour les enfants, surtout, c'est surtout eux. Pour les deux grandes, ça va, pour les deux petits, un peu plus compliqué, quoi. On n'est pas instituteurs, nous, hein, donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on fait avec, et puis voilà, ça va se... Il n'y avait pas d'obligation, ni de baccalauréat, il n'y avait rien cette année, donc voilà, quoi, on prendra le temps qu'on prend, et puis c'est tout, quoi, on récupérera le retard pendant les vacances.
Si
s'il y avait du positif à tirer de tout ça, ça pourrait être effectivement d'essayer de se recentrer sur certaines choses et puis essayer de penser plus local. Ouais.
Vous, dans votre activité, vous êtes impacté par rapport à cette crise sanitaire ?
Non. Non, parce que je suis indépendant et je travaille en informatique. Donc, je travaille de chez moi, en général. Donc, je travaille avec des gens qui vont être impactés, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Mais pour l'instant, au final, ça n'a pas changé grand-chose par rapport au quotidien.
Que l'école. Donc on se lève un petit peu plus tard parce qu'il n'y a pas de garderie. Mais moi je suis à l'école à Rose-Hélène. Et puis Jean-Marc s'occupe tout en télétravaillant de Yann Gaël qui a beaucoup de devoirs.
Hein, donc, ça se passe bien l'école à la maison ?
Eh bien pas si mal que ça. Bon, ça, j'avoue qu'avec des ados c'est un peu compliqué. Hein, mais surtout la petite, ça va très bien. Elle est super contente. Et puis, on fait un atelier bricolage, un atelier cuisine, la récréation. Et l'après-midi, on fait du jardin.
Ils ont envie que ça change bientôt, les enfants, ou ils sont contents?
Oui, quand même. Ils ont la vie sociale, je pense. Les copains, le manque de sport. Même si on fait du sport, même le prof de sport donne des fiches à Yann Gaël tous les jours. Hein, avec pas mal de cardio à faire, des exercices, se filmer, renvoyer... Ça fait 15 jours, hein, on va essayer de se supporter un certain temps. Même nous, à revivre en famille, parce que tu vois, avec deux enfants à l'internat et Jean-Marc n'est pas là de la semaine, la vie à 5, en famille, c'est différent. Là. Hein, faut chacun trouve
sa place.
Mais bon, heureusement, on ne va pas se plaindre, on a un jardin, de l'espace, suffisamment de pièces dans la maison pour ne pas se voir.
Vous habitez quelle commune ?
Augan.
Alors comment ça se passe pour vous le confinement en ce moment ?
Eh bien, comment que ça se passe ? Ma foi, c'est supportable. Ouais. C'est supportable parce qu'on n'est pas à plein. J'ai mon fils qui est en région parisienne en 35 mètres carrés, il sort pas. Lui, par contre, c'est pas la joie, tandis que nous, ma foi... Hein. Quand on fait nos courses, on prend nos précautions, puis l'alimentation qu'ils nous reçoivent aussi, donc c'est bien.
Ouais. Vous sentez l'ambiance dans le village ?
Elle est bonne, hein. Les gens sont positifs, ils sont pas déprimés.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pour vous, comment ça se passe en ce moment ?
Pas de stress, il y a de quoi s'occuper à la maison, on a pareil, on a un jardin.
Ça vous procure quoi comme émotion ?
Fais attention, mais ça me... Dans la mesure où on prend nos précautions... Ça va faire 15 jours que je ne suis pas sorti. Pas plus que ça. On a l'avantage d'être à la campagne.
Ouais, ça c'est un vrai avantage. Vous avez d'autres activités que le jardin ?
Oui, et peinture, on en profite à fond. On fait tout ce qui est intérieur.
Ok.
Oui, on a toujours de l'activité. Et puis comme ma femme est nounou, elle a toujours ses petits. Parce que les enfants de paysans, on les garde.
Eh oui. Et alors comment ils vivent les choses ?
Pour le moment, il n'y en a qu'un, donc ça se passe bien. Il est avec sa tati, donc il est content. Et puis, quand on peut aller dans le jardin, on va dans le jardin, mais bon...
À votre avis, alors, on en a encore pour combien de temps ?
Vous me demandez ça ? Pour moi, il y en a pour plus d'un mois. Ouais. Je pense, beaucoup plus d'un mois.
Ouais. Et à présent, nous retrouvons la chronique préparée par Jocelyn.
Voilà un peu plus de 2 semaines que nous sommes confinés et comme il faut bien s'occuper, je me suis dit que j'allais vous faire découvrir un peu quelques albums qui traînent dans ma discothèque. Que ce soit des classiques ou des albums plus obscurs, ce sont tous sinon des pépites, au moins des albums sympathiques qui, je l'espère, vous feront passer un bon moment. Aujourd'hui, nous parlons d'un groupe légendaire, porte-étendard d'un genre et de leur grand classique, entré au panthéon du rock. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, on va parler du Pink Floyd et de leur Dark Side of the Moon. Et non, ça ne fait même pas peur. Le Pink Floyd, c'est un groupe qui déchaîne les passions. D'un côté, certains crient au génie ultime, et de l'autre, certains les trouvent trop grandiloquents. Personnellement, le groupe me laissait plutôt indifférent jusqu'à ce que j'écoute l'album Wish You Were Here. Depuis, j'ai saigné la discographie du groupe, à commencer par ce qui nous intéresse ici, le Dark Side of the Moon. L'album est le premier concept album qui suit le cours d'une vie depuis la première inspiration avec Breath jusqu'au crépuscule de l'existence avec Eclipse. On retrouve même un thème musical récurrent dans plusieurs morceaux de l'album. Plusieurs titres me frappent à chaque fois que j'écoute l'album. Tout d'abord Time et son solo d'anthologie. Le morceau Money, qui ouvre la face B du disque, est le titre le plus connu de l'album et a raison. Us and Them apporte une tension qui ne se libère que lors du refrain, mais le morceau que je préfère est définitivement The Great Gig in the Sky. Ce morceau, le groupe n'arrivait pas à le faire aboutir. Alan Parsons, l'ingé son en charge de l'enregistrement, a alors fait venir Claire Tory. Les musiciens lui ont alors donné comme seule instruction « Pense à l'horreur, à la mort et chante ». La chanteuse, après quelques prises, sortira du studio en s'excusant de sa performance. Et pourtant, à chaque fois que je l'entends chanter sur ce morceau, j'en ai des frissons. Pour conclure, je ne peux que conseiller d'aller écouter et réécouter ce classique absolu du rock progressif. Et en attendant de pouvoir sortir, je vous laisse écouter The Great Gig in the Sky et vous dis à bientôt pour une nouvelle recommandation.
Oh, présent, nous laissons la parole à Marilyn Bonneau, éducatrice spécialisée au centre d'accueil des demandeurs d'asile situé à Guerre. Son point de vue nous intéresse dans cette période de crise sanitaire pour savoir comment les migrants et notamment les jeunes sont accompagnés dans leur quotidien.
Alors, je m'appelle Marilyn, je suis éducatrice spécialisée et je travaille au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Coalia à Guerre. Donc, le centre d'accueil de demandeurs d'asile accompagne environ 80 personnes sur le territoire de Guerre et ses environs. Donc, nous accompagnons à la fois des adultes, des familles et des jeunes qui sont reconnus isolés.
Et aujourd'hui, donc, ton travail, c'est de l'accompagnement de ces jeunes-là, quoi, hein, c'est ça ?
Oui, et donc, notre travail, avant cette crise du coronavirus, était essentiellement de l'accompagnement des jeunes, avec des rendez-vous réguliers, des permanences, et du lien avec les partenaires, que ce soit les écoles, les partenaires de santé, et surtout tout ce qui est démarche en lien avec l'administratif, le droit d'asile ou les titres de séjour. Suite à la crise, on s'est organisé pour faire au maximum du télétravail et limiter les contacts directs auprès de nos résidents, ce qui nous a demandé une souplesse d'esprit, parce qu'on avait l'habitude avant de les rencontrer en direct. Pour certains, la communication à distance n'est pas toujours facile en termes de compréhension. Et c'est aussi les accompagner dans l'isolement aujourd'hui et dans le confinement, ce qui est un accompagnement à part entière.
Ça a été quoi les premières mesures que vous avez prises ?
Alors, les premières mesures, on a appris, comme tout le monde devant la télévision, que les établissements scolaires allaient fermer et ne plus accueillir de jeunes à partir du lundi. Donc le vendredi, on a répondu à leurs questions et on était en lien avec les établissements scolaires parce que notre grande question, c'était comment faire de la continuité pédagogique pour ces jeunes qui vivent, je parle particulièrement des jeunes parce que c'est le service où je travaille, ces jeunes qui vivent dans des appartements de manière autonome et qui n'ont pas accès pour la plupart à Internet. Donc c'était se mettre en lien avec les établissements pour essayer de mettre en place des stratégies de poursuite éducative. Donc certains profs se sont déplacés jusqu'au logement pour déposer les cours en format papier. Nous, on était en contact aussi avec des profs par mail, avec les logiciels Pronote ou autres, pour essayer de récupérer les documents quand c'était pas possible en dépôt papier. Enfin, ça nous a demandé beaucoup d'organisation à ce niveau-là, et c'est toujours d'actualité, les choses ne sont pas encore fluides. Donc, ça fait 15 jours que là, les jeunes n'ont pas cours et on essaye de leur mettre à disposition aujourd'hui des ordinateurs pour qu'ils puissent travailler eux-mêmes dans leur logement.
Comment ils ont vécu les choses, eux ? Quelles questions ils vous ont posées ?
Ils ne nous ont pas posé beaucoup de questions. Pour la plupart, on va dire, ils se sont sentis en vacances. Je pense comme beaucoup de jeunes en France. Mais bon, nous, on a eu la charge tout de suite de travail par les établissements scolaires qui voulaient faire du lien, et c'est normal. Ce qui a pu être compliqué, c'est de les accompagner dans le suivi pédagogique, sachant que nous n'avons plus le droit, finalement, de faire des visites à domicile, sauf en cas d'urgence, parce que ça nous arrive de nous déplacer au logement, mais on est plus à agir sur des urgences médicales. Nous ne sommes pas en capacité de les aider sur du soutien scolaire. Donc là, c'est aussi la recherche de bénévoles et de partenaires qui pourraient nous soutenir à ce sujet.
Vous avez justement des personnes au sein du CADA qui vous aident, des bénévoles, des habitants qui participent au suivi de ces jeunes-là ou pas ?
Pas sur ce thème-là, parce que malheureusement, la plupart de nos bénévoles sont âgés et donc eux aussi sont limités dans leurs déplacements et dans les contacts à risque. Donc aujourd'hui, les bénévoles, certains participent à faire des courses pour les demandeurs d'asile qui ne sont pas mobiles et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer eux-mêmes faire des courses. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous aident. Après, pour le soutien scolaire, non, c'est pas encore résolu.
Vous avez combien de jeunes qui sont concernés ?
Là, on a une vingtaine de jeunes qui ont un bon niveau en français. Ils sont quasiment tous scolarisés dans des filières techniques ou générales. On a aussi des jeunes d'autres origines d'Europe de l'Est ou d'Asie. Pour ceux qui font des filières professionnelles avec des stages qui se sont interrompus du jour au lendemain, donc c'est aussi leur expliquer que c'est une décision qui ne vient pas de leur établissement mais qui vient de plus haut. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais en visite à domicile le lendemain de l'annonce du confinement et des jeunes qui viennent de pays en guerre m'ont expliqué qu'ils avaient trouvé un peu étrange l'allocution du président qui disait « mais nous sommes en guerre », et disait « mais le président, il ne sait pas ce que c'est la guerre ». Et c'est vrai que je trouvais ça assez pertinent comme remarque.
Vois aujourd'hui ton travail dans le cadre de la crise sanitaire qu'on traverse ?
Eh ben, je trouve que il a fallu s'adapter en tant que professionnel. C'est vrai que ça a été pour moi la mise en place au début assez stressant parce que c'était changer toutes les habitudes, la routine, les actes éducatifs. Et en s'adaptant, on apprend à faire différemment. J'ai installé WhatsApp sur mon portable, par exemple. Chose que j'avais pas mis en place avant, ça permet de garder un contact avec les jeunes. Pour ceux qui ont besoin de plus de présence, bah, on fait des visios. Tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas avant. Ça nous permet de penser différemment notre travail et d'une certaine manière aussi, parfois, de laisser ce temps de repos, ce temps de vide est aussi important à considérer. C'est à partir de ça qu'on peut construire autre chose dans le projet personnel. Enfin, là, c'est ma vision d'éducatrice. Mais l'important, c'est de ne pas les laisser trop isolés et de montrer une présence rassurante quand ils nous contactent. C'est vraiment l'essentiel de notre travail aujourd'hui. On a un jeune qui, du coup, a eu des problèmes de santé qui étaient très ressemblants au coronavirus. Donc on a dû réagir et se déplacer et voilà, pour lui du coup ce qui s'est passé c'est que les secours ont été appelés, le SAMU est allé jusqu'à chez lui, il a été amené à l'hôpital Pontchaillou. Il n'est pas resté hospitalisé mais par contre il n'était pas en mesure de rentrer tout seul dans son logement et puis je pense qu'il avait besoin de voir du monde aussi donc il nous a contacté, il nous a demandé d'aller le chercher au CHU de Pontchaillou. Donc là hop, on trouve des gants, un masque et tout ça. Et on se protège autant que possible, tout en assurant notre mission sociale.
En termes d'équipement, justement, vous avez été surpris du peu de disponibilité de masques et de gants pour votre travail ou pour vous, ce n'est pas nécessaire ?
Alors, on avait en stock dans notre bureau quelques boîtes de gants, une boîte de masques, mais des masques qui ne correspondent pas à ce qui est attendu aujourd'hui par rapport au virus. On a des masques chirurgicaux, donc bon, voilà, c'est de la bricole. Quand on le met, on fait attention à respecter la distance des 1 mètre. On équipe les jeunes avec ça quand il y a des suspicions dans les logements. Après, je trouve que c'est du bricolage. Et ce qui me choque d'autant plus, c'est de voir tous les témoignages sur les réseaux sociaux des professionnels de santé ou qui sont en lien avec des publics fragiles et qui n'ont, eux, pas non plus les surchaussures, les blouses, les gels. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème qui est plus sociétal et politique. Nous, à notre échelle, voilà, on essaye de se débrouiller, mais ça n'empêche pas justement ce grave problème, je pense, pour tous les professionnels médicaux.
C'est vrai qu'on parle souvent des soignants, hein, dans les médias, on entend beaucoup parler du soutien auprès des soignants, mais c'est vrai que dans le sanitaire et social, il y a aussi le social. Hein, et vous, du coup, les éducateurs spécialisés, comme les animateurs sociaux, sont des acteurs qui sont aussi au quotidien en veille sur la vie des adhérents, des personnes fragilisées, des habitants qui sont isolés, hein, en fait. Et c'est aussi votre corps de métier qui est aussi représenté dans cette crise. Et on vous remercie aussi beaucoup pour tout ça, quoi, pour tout le travail effectué auprès de ces publics-là qui ont besoin encore plus d'aide en ce moment, quoi. Merci encore, Marilyn, de ton intervention. Et puis, on souhaite que, en tout cas, les choses s'améliorent aussi pour toi et pour tes collègues. On peut le rappeler. Donc, Marilyn, tu es éducatrice spécialisée au centre d'accueil des demandeurs d'asile situé à Guerre, et tu t'occupes d'une vingtaine de jeunes.
Vou correr o risco de afundar de vez sob o peso da insensatez, já sem poder boiar. Estarei com alguém nariz contra nariz, o afogamento por um triz. Tentarei me salvar. Sempre assim, sempre que o amor vaza a maré, vou parar bem longe aonde não dá pé, difícil de nadar.
Outro dia o fato aconteceu, enfim, um golfinho anjo, um boto serafim, chegou pra me ajudar.
Aquele corpo liso e me deixei levar, ao lado seu sorriso aberto a me guiar. Então eu relaxei e me entreguei completamente ao mar.
Deuxième chapitre de la chronique des confins. En cette période un petit peu particulière, Timbre FM se mobilise pour donner la parole à un maximum de gens et d'auditeurs et de professionnels de santé, comme vous avez pu l'entendre avec Marilyn Bonneau. Nous remercions évidemment l'ensemble des partenaires qui participent à ce projet. Restez à l'écoute de votre radio locale. Vous pouvez bien sûr contribuer à cette chronique des confins en envoyant un mail à timbrefm@gmail.com ou bien par téléphone évidemment au 02 97 75 95 53.
Toi malade ? Mais toi t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi.
La seule maladie que t'as jamais eue, c'était des poux.
Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale ? À peu près comme le gars champêtre peut combattre un tremblement de terre.
Mmh. soin de toi si tu es malade.